Virage, les chemins de la transition, saison 2. Des regards, des visions, des chemins pour un monde plus souhaitable demain. Différents formats, portraits, reportages, différents sujets. Justice sociale, transition écologique, alimentation, féminisme, inclusion.
On n'a plus le temps de ne pas y croire. Réveillons-nous.
Une série originale proposée par Campus FM tous les mardis à 17h. Bonjour à vous, virageux, virageuse, ou en passe de le devenir, ou simplement auditeurs et auditrices de Campus FM. Bienvenue dans Virage, les chemins de la transition, une émission diffusée tous les mardis à 17h sur Campus FM. Je m'appelle Margot et je suis ravie de vous retrouver. Avant que j'oublie, je dois vous transmettre un message de la part de toute l'équipe. Virage, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes qui ont décidé d'apporter, à leur façon, une ou plusieurs pierres à l'édifice d'un monde plus désirable. Alors, pour varier les plaisirs et les témoignages, nous recherchons continuellement des personnes qui se sentiraient concernées et qui auraient envie de venir nous raconter leur histoire. Alors, si vous habitez en Occitanie et qu'à vos heures perdues ou dans votre métier, vous nourrissez un récit d'un monde en transition, alors n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail suivante, virage avec un S, -6, campusfm@mailo.com ou sur Instagram, Facebook, Twitter, en cherchant virage au pluriel, campus, tout attaché. Ces réseaux acceptent aussi les compliments gratuits. Je dis toute l'équipe car Virage, c'est quatre voix. La mienne, Margot, mais aussi celle de Mathias, Pauline et Théo. Un quatuor paritaire, un peu perché et surtout passionné par cette aventure radiophonique. Alors n'hésitez pas à aller découvrir les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « On sème, on cueille, on prépare, on sert ». Et mon invité s'appelle Kyria Gay et se définit elle-même comme une paysanne restauratrice. Vous allez découvrir en même temps que moi son histoire et comment elle a réussi à s'ajouter toutes ses casquettes dans un projet à la fois cohérent et inspirant. Bonjour Kyria, bienvenue.
Bonjour, bienvenue, merci en tout cas pour votre invitation.
Avec plaisir. Pour commencer, comment ça va ?
Je vais très bien, ça me fait bizarre de retourner à Toulouse parce que ça, c'est une grande ville et j'ai plus l'habitude maintenant au fin fond de ma ferme alors que je suis née ici. Donc ça me fait plaisir, mais ça me chamboule un petit peu.
Ok, justement, la question d'après, c'était, t'as fait un peu de route pour venir, tu débarques d'où exactement ?
J'ai fait 1h30 de route et je débarque au fin fond des Pyrénées, à côté de Saint-Girons, à Montjoie, en Couserans.
Ok, ça me dit rien, mais de toute façon, j'ai prévu d'y venir prochainement. Kyria, est-ce que tu peux te présenter un peu à la manière d'un profil Facebook, genre âge, lieu de naissance, marié, enfant, hobby, des petites informations comme ça pour briser la glace?
Allez, je me lance. Donc moi, c'est Kyria. Mon vrai prénom en entier, c'est Kyria Joyce, d'ailleurs. Mais bon, on va pas s'embêter avec
ouais,
ça.
Tu m'as dit que Kyria, ça t'allait.
Exactement. Donc, je suis Kyria, j'ai 32 ans maintenant, deux enfants, mariée avec Emmanuel Gay, avec qui on a aussi, on a tout monté, donc je vais forcément parler de lui à un moment donné. Quoi dire de plus au niveau de mon métier? Alors là, c'est assez compliqué de condenser, mais...
On y reviendra de toute façon.
Je me définirais comme paysanne restauratrice et plutôt éclectique. Et voilà
hobby,
quoi d'autre.
Sport,
hobby,
passion.
Passion, la nature complètement. Céramique également. Je suis assez. J'ai vraiment plein de passions. Je suis très très créative. Donc au départ, j'ai commencé avec la couture. Ensuite, j'ai aussi passé à un moment donné sur la peinture. Voilà, je suis. Multifacette.
Manuel, pour le coup.
Ouais, plutôt manuel.
Ok. On va évidemment parler de ton projet, la table de Gaïa, que tu coportes d'ailleurs avec ton mari. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours d'études, s'il y en a un, ou en tout cas ton parcours pendant, je dirais, tes premières années de personne majeure et indépendante?
Alors, j'ai quitté ma famille, en fait, très jeune, à 16 ans. Et je suis partie à Perpignan pour faire au départ un BTS en couture. Et en fait, j'ai rapidement arrêté pour pouvoir passer en candidat libre, faire ça en candidat libre en fait et travailler avec un créateur de mode donc à la base. Ensuite, j'ai fait un an en mode design en Angleterre. Très rapidement, hein, je fais les grandes lignes.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et ensuite, j'ai passé un an aussi en Espagne. Donc là, c'était, je faisais pas d'études là-bas. C'était purement pour m'inspirer, parce que l'espagnol a été très fort pour moi à un moment donné. Donc du coup, avec ces deux langues, là, j'ai passé une licence en langue étrangère appliquée, où ensuite, je suis passée à être traductrice trilingue, en fait, parce que j'avais aussi l'italien avec moi. Et après, je suis tombée enceinte, donc j'ai dû arrêter cette voie-là.
Ok, donc polyglotte déjà, j'ignorais. Oui. Et pour faire ta licence, ça veut dire que tu as eu un bac à un moment donné ?
Oui, que j'ai passé en candidat libre, tout à fait.
Ok. Waouh, sacré parcours.
Ouais.
Quand on sait, moi je connais un petit peu le projet dont on va parler, c'est vrai que c'est quand même des mondes
totalement
assez différents.
Ouais. Totalement différents.
On est d'accord. Et bien justement, dernière question avant de parler de la table de Gaïa. Ça a été quoi ton virage, ce moment où tu t'es dit faut que j'y aille, faut que je me lance
Ça a été mes enfants. Ça a été quand je suis tombée enceinte, je suis tombée enceinte très jeune, j'avais 20 ans. 21, pardon. Et en fait, à ce moment-là, ça a été vraiment le gros coup de cœur de me dire waouh, là, je vais devenir maman, qu'est-ce que je fais ? La ville, ça ne me correspondait pas du tout. Je ne voulais absolument pas faire grandir mes enfants en ville. Et du coup, c'est là où, avec le père de mes enfants, on est parti en Ariège. Et ça a été de là qu'ensuite, suite à la rupture avec le père, que j'ai rencontré Manu et qu'on a décidé vraiment de se lancer en communion avec la nature.
Ok, donc le projet ferme, parce que donc, ça c'est une des parties du projet et on y reviendra. Parce que t'avais quoi ? T'avais peur pour tes enfants ?
Enfin, c'est pas peur, mais j'avais envie vraiment qu'ils grandissent en contact avec la nature, en étant dans les arbres, en pouvant faire des feux de camp. Voilà, j'avais vraiment cette idée-là. J'ai été toujours petite, j'étais toujours plutôt sauvage et j'avais envie que mes enfants grandissent dans ce cadre-là.
Ouais, je comprends. Je comprends et en même temps, ça m'interroge sur le projet en tant que tel parce que vivre en campagne proche de la nature avec tes enfants, c'est une chose, mais ça n'aurait pas forcément généré ce méga projet dans lequel vous vous êtes lancé, tu vois. Donc, j'aimerais bien encore, tu vois, un petit peu creuser sur, ok, tes enfants, ils font des feux de camp. Mais à côté, tu pourrais faire de la couture, tu vois, et basta. Non, t'as décidé de te lancer dans un truc quand même assez énorme. Et ça, ça vient d'où, cette idée ?
En fait, au départ, vraiment, si on raconte l'histoire, ça peut être très long.
Ok, donc
je vais essayer
pas
de
forcément.
Te résumer. Ouais. Mais en fait, au départ, on cherchait une petite grange avec un hectare de terrain. Et en fait... vraiment, le destin nous a mis au pied du mur avec cette ferme qui était énorme. Enfin, qui était énorme. Pour la moyenne française, elle n'est pas si énorme que ça. Il y a 30 hectares. La moyenne en France des fermes, c'est 50 hectares. Donc, on est quand même dans un modèle d'agricole assez petit.
Mais pour des personnes qui n'ont voilà. pas d'expérience.
Quoi. Exactement.
Okay.
Donc, du coup, il y a eu cette ferme, en fait, qui s'est vraiment offerte à nous. Et on a demandé des financements auprès des banques parce qu'on n'avait aucun apport, ni Manu, ni moi. Et en fait, la banque a accepté. Donc, on s'est retrouvé vraiment au pied du mur à dire, bon, ben, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait pas ça? Et on s'est jeté à l'eau, quoi. Il y avait vraiment aucune préméditation derrière, quoi. Ça a été le destin qui nous a posé là.
Eh ben, c'est inspirant de se dire que tout est possible à des moments donnés de ta vie où tu t'y attends même pas forcément. Donc, aujourd'hui, tu es paysanne restauratrice. Donc, la question, déjà, c'est, ça veut dire quoi? Et est-ce que tu pourras nous raconter, donc ça y est, là, le projet, la table de Gaïa, tel qu'il existe aujourd'hui, et peut-être un peu sa genèse, d'où il est parti, puisque bon, il est multiple, donc j'imagine que tout ne s'est pas fait au premier jour.
Alors au départ, nous, on n'était pas du tout partis sur de la restauration, étant donné qu'on est du métier ni Manu ni moi, vraiment, absolument pas. Donc... Nous, notre leitmotiv, en fait, de pourquoi on s'est installé, ça a été vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer au monde que vivre en communion avec la nature, c'est possible, que l'agriculture, comme on la connaît aujourd'hui, conventionnelle, elle est en train de mourir. On ne va pas pouvoir continuer dans ce sens-là. Et on voulait vraiment être les précurseurs d'un nouveau monde et d'un nouveau mode de produire. Et du coup, on s'est posé la question de quelle était la production qu'on pouvait mettre en place, nous, avec nos connaissances, pour pouvoir montrer que c'est possible. On s'était vachement renseigné sur la question des semences, donc de la base vraiment de l'agricole. Et bon, je ne vais pas non plus partir sur ce débat-là parce que c'est vraiment très grand. Mais sur la semence, y a vraiment des gros lobbies qui se mettent dessus et où on est en train de perdre notre nature, hein, clairement.
Et en même temps, juste si je peux me permettre de cette parenthèse, parce qu'après je sais que le projet évolue, même si vous êtes précurseur sur un certain modèle, la résistance... notamment Cocopelli et d'autres sont quand même, enfin je veux dire, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui viennent lutter contre cette agriculture conventionnée, contre ces industriels, ces gros lobbies et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a quand même un espèce de réseau pas forcément souterrain parce que quand même ils prennent de l'ampleur, surtout dernièrement la Confédération Paysanne etc. et enfin voilà, en tout cas j'imagine que toi tu connais, mais pour préciser, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Alors c'est sûr, c'est David contre Goliath, hein, on en est bien conscient, mais ça existe quoi, la résistance existe en ce moment et depuis des années en plus. C'est pas nouveau qu'il y ait des gens qui décident de faire de l'agroécologie par exemple.
Tout à fait, heureusement, bien sûr, et on est tous acteurs de ça et je félicite vraiment tous les acteurs qui s'y mettent parce que c'est un vrai combat. C'est vraiment pas facile, comme tu dis, c'est David contre Goliath, mais il faut le faire quoi. Et nous, c'était vraiment notre leitmotiv et voilà. Et donc au départ, on s'était lancé dans la production de semences paysannes. Donc tu parlais de Cocopelli, on était avec Cocopelli. Mais malheureusement, très rapidement, on s'est rendu compte que financièrement, on ne s'en sortirait pas. Parce que comme je t'ai dit, hein, on n'avait aucun financement, on a du tout payé à crédit. Et avec nos graines, c'était absolument pas possible de pouvoir survivre. Donc très rapidement, on s'est dit comment valoriser nos productions. En plus, quand on était producteur de semences, il faut savoir que quand on récolte la semence, les chairs des légumes sont jetées, données aux cochons. Et nous, du coup, moi... En ayant vécu la faim petite, j'avais vraiment à cœur de transformer ça. Donc, je valorisais déjà dans un premier temps. On avait déjà fait une petite guinguette au bord de la Voie Verte où on valorisait déjà nos productions. Mais rapidement, du coup, on s'est dit, vas-y, on devient plus grand et on valorise au bout et on fait un restaurant fermier et on se tente, quoi. Donc là, avec le recul, je vous avoue que peut-être moi, adulte, quand j'avais 23 ans, quand on s'est installé, je dirais à cette personne-là de absolument pas faire ça parce que ça a été un boulot de fou et ça a été des contraintes énormes. Mais arrivé maintenant à mon âge-là, je suis vraiment fière et très contente d'avoir fait ça parce qu'au final, ça nous a permis de survivre. Ça nous permet de valoriser nos produits et ça nous permet surtout d'offrir une grande qualité à nos convives qui viennent nous voir dans notre restaurant fermier.
Ouais, c'est génial. J'ai vu quelques images, ça donne très envie. Simplement pour peut-être reprendre, donc vous démarrez avec cette idée de faire des semences, ça c'est une première chose. T'as parlé de gaspillage alimentaire qui amène finalement au restaurant, mais il y a quand même aussi donc une ferme avec des animaux, du maraîchage, etc. Cette partie-là s'est faite en même temps que le restaurant pour compléter ou ça a été avant ? Enfin tu vois, il me manque la partie ferme maraîchage, quand est-ce qu'elle est arrivée ?
Alors, chaque animal vraiment a une histoire particulière.
Oh purée.
En fait, donc au tout départ, nous on s'est installé vraiment, notre projet agricole, c'était les semences et les brebis. Parce que on avait quand même pas mal de terres à valoriser, donc on avait déjà commencé avec les brebis.
Et puis ça pâture.
Voilà, c'est ça, exactement. Comme ça, ça facilite, ça nettoie et c'est très bien. Et en plus, ça nous permettait de valoriser tout ça, quoi. Ensuite, on a décidé de faire ce restaurant fermier. Entre-temps, on avait eu aussi des cochons parce que c'était un peu un con, mais pour notre anniversaire de mariage, on nous avait offert un couple de cochons. Donc du coup, on les a récupérés.
Original.
Exactement. Et ensuite, au fur et à mesure, Manu a toujours voulu avoir des oies. Les poules, c'est arrivé rapidement aussi. Et puis au fur et à mesure, on a rajouté des vaches aussi. Donc voilà, on s'est agrandi en fait vraiment au fur et à mesure, en sachant que à chaque fois, on prenait beaucoup de temps pour agrandir la ferme, ensuite le restaurant, la ferme, le restaurant, la ferme, le restaurant. On a vraiment été sur les deux paliers au fur et à mesure, quoi. On a augmenté au fur et à mesure, d'où le fait aussi que ça nous ait pris beaucoup de temps aussi à arriver jusqu'à maintenant, parce que il nous fallait un peu jongler entre les deux activités.
Alors, j'ai plusieurs questions. Déjà, du coup, sur la partie animale, elle vous sert de ressource en viande ou est-ce que c'est un resto végétarien ou est-ce que vous vous fournissez ailleurs?
Comment... On a toujours des options végétariennes, mais effectivement, nos animaux sont là pour l'assiette également.
Ça marche. Et où est la partie maraîchage, du coup, là-dedans? Elle est arrivée, j'imagine, aussi en parallèle du restaurant pour alimenter les assiettes?
Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. En fait, on a agrandi notre partie semences. On a même mis de côté, finalement, la partie semences pour faire du maraîchage en même temps pour le restaurant. En sachant aussi qu'on utilise aussi des récoltes sauvages. Mais voilà, la partie maraîchage aussi est arrivée au fur et à mesure du temps.
C'est génial. Et donc, pour résumer, hein, la table de Gaïa, c'est donc une ferme qui alimente un restaurant et les convives viennent à la fois manger, visiter et même dormir, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. On a aussi développé cette partie-là, où maintenant on a deux gîtes qui sont effectifs. On est en train de monter un camping fermier et aussi un nouveau gîte pour pouvoir accueillir les personnes qui veulent venir passer un moment un peu plus important avec nous.
Ouais, c'est génial. Et ce projet complet, là, à l'état actuel des choses, il existe depuis combien de temps?
Ça fait 8 ans qu'on est sur la ferme et ça fait 6 ans qu'on est sur la partie restaurant. C'est notre 6e saison aujourd'hui.
Ok, et la partie gîte?
La partie gîte, elle est toute récente. Je crois que c'est notre 2e saison maintenant.
Ok, ça marche. Bon, je crois qu'on a un peu fait le tour, mais maintenant j'ai un peu envie de me réintéresser à toi, Kyria, dans tout ce projet. J'imagine que c'est quand même un travail d'acharné. Est-ce que tu arrives à avoir des temps de respiration, de loisirs à côté de tout ça? Enfin,
bah,
à quoi
écoute,
ressemble ta vie?
Écoute, hier, on a enfin pu partir faire un pique-nique avec les garçons et Manu. Donc, on était super contents, mais ça faisait 3 mois ou 4 qu'on n'avait pas fait ça. Bah, effectivement, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices aussi. Mais vraiment, les retours clients qu'on a après derrière, c'est vraiment ça qui nous nourrit. Et c'est hyper valorisant de savoir que... Bah, tout l'amour qu'on met dans nos produits, en fait, va être dégusté à sa juste valeur, quoi.
Et ça fait quoi de travailler avec la personne qui partage ta vie?
ça, c'est pas toujours facile.
Parce que moi, c'est une de mes... Je me suis toujours dit, tu vois, genre, je pourrais jamais... Enfin, je pourrais jamais, j'en sais rien, mais... C'est vrai que c'est dur d'imaginer que, autant dans ta vie pro que dans ta vie perso, ce soit forcément avec la même personne et... Et dans les témoignages que j'entends, il y en a qui disent que c'est assez dur de couper le monde, la discussion du boulot dans le lit et inversement, tu vois, et d'amener les problèmes perso aussi dans le travail.
Ça c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il faut vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de respect, je pense. Bon, comme dans tous les couples, mais là encore plus. Là du coup, on se partage les tâches. Au départ, c'était très fusionnel et c'était très difficile. Et du coup, en plus, on est deux caractères forts, donc c'était très difficile pour trouver notre place finalement. Du coup, on a vraiment séparé les tâches. Moi, je m'occupe du maraîchage, lui de la partie élevage. Au restaurant, moi, je suis la chef de cuisine, lui il est le chef de salle. Donc du coup, déjà, on est bien séparés.
Ouais, chacun.
Quand il y a des choses à trancher, ben ça va être en fonction des tâches qui nous sont données, qui la personne va pouvoir trancher. Mais après, effectivement, on coupe jamais vraiment, mais c'est aussi ça qui est beau parce qu'en fait, c'est notre vie. C'est pas vraiment un travail, c'est notre vie entière quoi qui est dédiée à ça.
Ouais, je comprends. Et vous êtes que tous les deux ou vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous ?
Depuis 2 mois, on vient d'engager nos premières personnes là, mais au tout départ, on était vraiment que tous les deux depuis le début. Hein. On a eu la chance d'avoir eu pas mal de passages, notamment des woofers ou alors des stagiaires qui sont venus nous filer la main et ça nous a vraiment beaucoup aidé. Je tiens à la remercier là et vraiment n'hésitez pas les auditeurs à faire du woofing et à aider des fermes et des projets super parce qu'il y en a plein. Mais on a quand même toujours été plus ou moins tout seul, quoi. Et là, on vient d'engager nos deux premières personnes sur la partie restaurant uniquement, pas sur la partie ferme, parce que là, on avait vraiment à cœur de développer cette partie-là. Et voilà, pourquoi pas un jour développer aussi la partie ferme et pouvoir engager quelqu'un, ce serait chouette, ça nous permettrait un peu plus de nous reposer.
De souffler. Donc là, tu parlais du woofing. Ça continue? Les gens peuvent continuer à venir faire du woofing ou ça y est, vous avez...
Non, on continue. Après, on privilégie les stagiaires quand même avec les personnes qui ont un vrai projet derrière. Mais les woofers, on en prend toujours après sur des longues distances. Sur des longues périodes. On va pas prendre en dessous de un mois pour du woofing. Parce que le temps de voir, en fait, toute la synergie qu'il y a sur la ferme, on peut pas, en fait, sur une semaine, voir tous les tenants et les aboutissants de tout ce qu'on fait. C'est pas possible.
Je comprends. Et au cas où ça intéresserait des personnes qui nous écoutent, ça, ils peuvent vous écrire directement sur le site de la table.
Oui, tout à fait. Sur la table de Gaïa, le contact, ça vient directement sur notre boîte mail.
Ok. Et Gaïa, je précise que c'est G-A-Y-A, parce que des fois, c'est avec un I.
Tout à fait. Et c'est un jeu de mots, en fait, avec notre nom de famille.
Ah, ok. Je me suis dit, ça doit être la terre, donc je pose même pas la question, tu vois.
C'est ça, en fait, on s'appelle Monsieur et Madame Gay, vu qu'on est mariés, et du coup, on a rajouté un A.
Et c'est bien trouvé. En même temps, c'est assez pratique. Enfin, tu vois, il y aurait pu avoir d'autres noms de famille qui s'y prêtaient moins. Dans tous les épisodes de Virage, je fais une petite pause musicale en diffusant une chanson choisie par l'invité. Enfin, l'invité en choisit deux, l'une qui lui donne la pêche, qui donne envie de bouger, et une qui est plus adaptée à ses moments de calme et de mélancolie. Et donc toi, Kyria, quand tout va bien, tu écoutes une chanson qui te parle depuis ta plus tendre enfance. Il s'agit de L'air du vent, du film Disney Pocahontas. On écoute et on se retrouve juste après pour que tu nous expliques un peu ce choix. C'était L'air du vent, tiré du film Pocahontas. Vous êtes toujours sur Campus FM pour un épisode de Virage, les chemins de la transition, en compagnie de Kyria Gay.
Autrement dit, différent de vous.
Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. De appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? Les pleurs du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? D'or et de lumière, partageons-nous les fruits mûrs de la vie. La terre nous offre ses trésors, ses mystères. Le bonheur ici-bas n'a pas de prix. Je suis fille des torrents sur des rivières. La loutre et le héron sont mes amis. Et nous tournons tous ensemble au fil des jours. Dans un cercle, une ronde à l'infini. Là-haut, aussi comme un tour, comme l'aigle royal, il trône impérial. Les créatures de la nature ont besoin d'air pur, et qu'importe la couleur de leur peau. Nous chantons tous en cœur les chansons de la montagne. En rêvant de pouvoir peindre l'air du vent. Mais la terre n'est que poussière tant que l'homme ignore comment il peut peindre en mille couleurs l'air du
Tu m'as dit que cette chanson te liait à ton histoire familiale, car ta grand-mère est amérindienne. Elle vient d'où exactement ?
Elle vient entre la frontière entre le Canada et les États-Unis.
Ok, donc en amérindienne fait, du Nord.
Ouais, tout à fait. Comme ils étaient nomades, j'ai pas un endroit précis, mais je sais que c'était vers là.
Parce que moi, je suis née en Guyane et on parle aussi des peuples amérindiens en Amérique du Sud. Du coup, je me demandais quelle histoire. Et du coup, c'est quelqu'un que tu as rencontré, avec qui tu as...
J'ai malheureusement pas pu la rencontrer. Et après, bon, il s'est passé des choses assez terribles à cette époque-là. Je sais que mon grand-père, en fait, était... Et, parce que c'est mon arrière-grand-mère qui était amérindienne. Et mon grand-père est issu d'un viol, en fait, entre elle et un général allemand. Okay. Et donc, du coup, j'ai jamais pu la connaître, malheureusement. Mais par contre, je suis fière de mes gènes et je l'ai vraiment à l'intérieur de moi. Et même avant que je sache, en fait, que j'avais cet ancêtre-là, j'étais vraiment très proche des Amérindiens. Petite, j'étais vraiment fascinée par leur vie. J'avais même, à un moment donné, comme projet d'aller vivre dans une réserve. Bon, et après, j'ai abandonné l'idée quand j'ai vu comment ils étaient traités. Mais au départ, j'étais vraiment, vraiment très liée à ça. Et l'air du même a toujours beaucoup parlé. Et Pocahontas, c'était ma princesse à moi, Disney, quoi.
OK. Mais parce que... Enfin, c'est un peu délicat comme sujet, mais en même temps, c'est vraiment une histoire qui est assez atroce. T'as su tard que t'avais cette partie-là de...
Je l'ai su vers mes 12 ans.
Ah ouais, mais parce que les gens te voient pas, mais t'as quand même des traits où tu fais pas du tout allemande, je veux dire. Donc.
Ben après, je faisais plus chinoise, effectivement. Petite, on me disait plus que j'étais une chinoise, quoi.
Ok.
Mais oui, effectivement, j'ai les traits poussés. Je suis celle, je pense, de mes frères et sœurs qui a le plus de traits. Et du coup, j'imagine le plus de gènes qui ressort chez moi de ça. Et ça, je pense aussi que ça découle de là mon amour des plantes, de la vie, de la nature, des plantes médicinales et de tout ce que je transmets aussi, j'espère en tout cas, dans le restaurant fermier.
Ouais. C'est vrai que c'est une partie de l'histoire qui est quand même très très violente, quoi. Le fait d'avoir décimé et un peuple et d'avoir pris leur terre et qu'en plus, ça veut dire qu'il y a vraiment des preuves vivantes de ces mixités non désirées. Enfin, on en a. J'ai l'impression qu'on en parle un peu plus auprès des esclaves d'Afrique noire, etc. Tu vois, mais c'est vrai que sur les peuples amérindiens,
ça a été totalement effacé de l'histoire entière. Hein. Enfin, voilà, c'est vrai que dans l'esclavage noir, heureusement, on a su en parler, quoi. Mais chez les Amérindiens, ça a été totalement, totalement oublié. Ils n'ont jamais même existé auprès de l'histoire. C'est vraiment terminé, quoi.
Ouais, c'est très dur. Mais bon, aujourd'hui, quand même, on arrive à retrouver des ressources, quand même, qu'il y a des films qui traitent un peu du sujet.
Heureusement, ouais, heureusement.
C'est clair.
Mais du coup, c'est un sujet qui m'a toujours touchée. Et donc, ouais, l'air du vent m'a beaucoup apporté, petite. Et bah même ouais, adulte, d'ailleurs, hein, je continue à l'écouter.
C'est pour ça que je me suis permise de diffuser ce choix qui peut paraître assez naïf vu comme ça. Mais je sentais qu'il y avait quand même du sens derrière tout ça. D'ailleurs, tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Donc, c'est un extrait de la chanson qu'on vient d'écouter. Donc tu l'as dit, ça te parle, ça, ou c'est autre chose de la chanson, plutôt tes racines, enfin...
Non, c'est plutôt ça, effectivement, c'est vraiment l'air du vent, c'est vraiment cette connexion avec la nature que l'homme et la femme occidentale a perdu, qui ressort vraiment dans cette chanson-là, moi, qui me touche particulièrement, effectivement.
Je pense que c'est un chouette message à passer aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a une déconnexion très forte avec... la nature, hein, même moi, je suis née en Guyane, mais je me considère plutôt comme une citadine, malgré le fait d'y avoir passé 11 ans. Et aujourd'hui, quand on essaye de transmettre la connaissance des changements globaux et climatiques qu'on est en train de vivre, il y a une profonde corrélation entre le fait de transmettre de la connaissance et de sensibiliser, et d'amener les personnes à se reconnecter à l'environnement naturel qui peut les entourer de près ou de plus loin s'ils habitent en ville. Et j'utilise beaucoup cette phrase dans mes travaux et dans les moments où je sensibilise les gens, c'est « on protège ce que l'on aime, mais on aime ce qu'on connaît ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à défendre le vivant si on n'a jamais été en forêt. Les personnes qui défendent la montagne, ça peut être des personnes qui aiment skier. Donc pas forcément des personnes complètement engagées écologiquement, mais en tout cas qui ont à cœur de défendre un endroit qui leur tient à cœur. Et aujourd'hui, je me suis de plus en plus rendu compte que l'apport de connaissances, tu vois, d'expliquer les gaz à effet de serre ou les changements climatiques, etc., n'avait aucun poids si on n'arrivait pas à l'ancrer sur une démonstration tactile, palpable auprès des gens, donc c'est-à-dire de les amener dans des sphères beaucoup plus naturelles et déconnectées du monde urbain, quoi.
Mais ça, c'est clair. Et mais même, je rebondis aussi sur autre chose. C'est que moi, dans mon expérience, je me rends compte aussi que je viens aussi d'un milieu urbain, hein, à la base. Hein, j'avais cet appel-là au fond de moi, mais je n'avais aucune connaissance là-dedans. Et c'est très difficile de se reconnecter aussi avec toutes les connaissances de nos anciens qui, eux, savaient tout, quoi. Et nous, on a dû travailler énormément. Bon, après, nous, on fait vraiment plein de choses. On est sur les vaches, on est sur les cochons, on est sur les abeilles, on est sur les arbres, on est sur les végétaux, sur les plantes médicinales, etc. Et toutes ces connaissances à retrouver et à reconnecter, ça a été un travail de longue haleine également. On a fait des erreurs, on a dû reprendre, on a perdu du temps, on a perdu de l'argent. Bon, maintenant, je pense qu'on est assez riche de connaissances, mais il y a aussi ce problème-là, en fait, de récupérer tout ça et ensuite de les offrir aux personnes. Déjà, il faut un minimum, pour moi, d'envie de ces personnes-là si on veut leur montrer un autre chemin. Mais d'un autre côté, on l'a plus ou moins tous. Tout le monde va être ébahi devant des bébés lapins ou devant une jolie fleur. Qui peut se dire que non, moi je m'en fiche, et ou même quelqu'un qui va vraiment se mettre devant un arbre majestueux, ça nous fera toujours quelque chose, autant urbain qu'on est. C'est inscrit dans nos gènes, c'est inscrit dans notre cœur, c'est inscrit dans notre corps. On peut pas vivre sans la nature, on peut se le cacher pendant des années, mais ça finira par nous péter à la figure à un moment donné.
Oui, je pense que ce beau-là est un levier assez simple pour réussir à récupérer les personnes qui se sentent assez déconnectées, conscients de leur anxiété, leur éco-anxiété ou pas, tu vois. Mais je pense que oui, comme tu dis, il y a des choses qui marcheront auprès de n'importe qui, et ce, tout le temps, je pense.
Et même tout simplement le goût différent d'un vrai fruit et d'un vrai légume. Venez à la table de Gaïa, vous verrez, ça, c'est vraiment, mais différent radicalement, quoi. Nous, c'est vraiment les retours qu'on a. Je fais pas des recettes incroyables, mais avec des produits qui sont issus d'un vrai terroir, d'une vraie terre, ça change absolument
tout.
Ça change tout.
Et ben, justement, c'est une très bonne transition. Pour ma dernière question, pour finir cet épisode, donc j'ai vu sur le site de la table de Gaïa que, donc, au-delà du gîte, de la ferme et du restaurant, vous organisez aussi parfois des événements. Est-ce que tu as des dates à partager aux auditeurs et auditrices? Un petit mot de fin, les deux?
Alors, effectivement, on fait aussi du service traiteur. Ça, je pense pas qu'on l'ait dit, mais bon, après, c'est peut-être pas pertinent, mais on fait aussi donc des mariages. On fait de plus en plus de mariages. Et ensuite, on a deux dates qui sont phares un peu chez nous. Il va y avoir avant l'été. Cette année, je crois que ça tombe le 29 juin où on fait l'ode au soleil.
Donc, juste après l'été, début d'été, du coup.
Ouais, juste avant l'été.
Pardon. Non, c'est 21 juin.
Oui, non, là c'est le 29 juin.
Ouais, du coup c'est une semaine après le...
Oui, le premier jour de l'été.
Exactement.
Tout à fait.
Ouais.
Le 21 juin était déjà pris, donc...
Ouais. Souvent.
Donc, du coup, là, on fait un petit festival, c'est l'Ode au Soleil. Donc, pareil, dans mes origines amérindiennes, le soleil avait une place très importante et j'avais vraiment à cœur de... Puis l'été, c'est ma saison préférée, donc voilà, j'avais vraiment à cœur de montrer un petit peu toute la place du feu et du soleil à ce moment-là. Et ensuite, on a nos portes ouvertes après la saison qui tombe en octobre, où là, on prend plus le temps pour expliquer notre démarche, faire visiter la ferme et tout ça.
Ok, trop bien. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des moments, des concerts ou des choses comme ça, c'est quelque chose que vous faites plus?
Non, on les fait plus. Financièrement, c'était trop difficile pour nous.
Ok, ça marche. Et donc, toutes ces infos, on peut les retrouver sur le site de la Table de Gaïa.
Tout à fait. Sur le site de la Table de Gaïa, sur l'Instagram ou le Facebook.
Super. Et bah, c'est le mot de la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Kyria. Franchement, j'ai adoré cet épisode.
Merci beaucoup, Margot, de m'avoir invitée ici.
Avec plaisir. Franchement, c'est la première fois que j'enregistre un épisode avec une personne qui ne vit pas à Toulouse. Et c'est un des objectifs de cette émission, de commencer à un peu sortir de la ville et d'aller chercher des richesses occitanes un peu plus éloignées. Donc, mille fois merci. Vous pourrez retrouver cet épisode sur les plateformes d'écoute via le nom Virage avec un S tiré du 6 Campus FM et sur Campus FM tous les mardis à 17h. C'était Margot et je vous retrouve le mois prochain. Virage, les chemins de la transition, un programme en partenariat avec l'Université de Toulouse et le Conseil régional d'Occitanie. À bientôt!